Écoutez, bonsoir, bienvenue pour cette conférence assez intime, il faut bien l'avouer, avec notre ami Maxime Blain, historien et auteur de du monumental ouvrage Château de Versailles en chantier que je vous recommande absolument. Comme je dis, maintenant il y a deux ouvrages sur l'histoire architecturale du château, il y a le Pierre Verlet et maintenant il y a le Maxime Blain, et c'est vraiment sincère. Et bien sûr, c'est une conférence que nous faisons aujourd'hui, en lien aussi avec la très belle exposition que j'espère vous avez vue, Versailles Architecture Rêvée. Alors, pour toujours rester dans l'inédit, on vous propose ce qui n'est toujours pas très proposé dans nos programmations aux amis de Versailles, c'est un peu l'histoire du Versailles post-révolutionnaire. Et aujourd'hui, on vous propose donc les Versailles de Napoléon, en lien aussi un écho avec une exposition que vous aviez eue en 2005 de Jérémy Benoît, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était aussi en lien avec Versailles sur Napoléon, mais plutôt dans l'angle du mobilier, avec notamment les soieries qui avaient été commandées. Et là, ce soir, tout à fait inédit, ce qui n'avait jamais été abordé, c'était le point de vue architectural. Et grâce à Maxime, voilà, vous allez être incollable sur le Versailles de Napoléon ce soir. Donc bonne conférence et on se retrouve tout à l'heure.
Merci beaucoup Nicolas. Bon, bonsoir à tous. Les Versailles de Napoléon, je vais essayer de remonter très rapidement aux origines de Napoléon et notamment je vais commencer au 18 et 19 Brumaire en 8 lorsque le général Bonaparte, soutenu par Talleyrand, voilà, soutenu par Talleyrand, Sieyès et Fouché notamment, mais surtout par son frère Lucien, le président du Conseil des 500, eh bien destitue les directeurs, il renverse la constitution de l'an 3 et met fin au directoire et par là même met fin à la Révolution française. À la suite de la nomination de la commission consulaire exécutive, composée notamment par de Sieyès, Ducos et Bonaparte, ce dernier devient bien premier consul en héritant du pouvoir exécutif et militaire. En tant que grand militaire, grand stratège, et il prend soin de ses troupes, on est en pleine campagne d'Égypte, et il décide de se pencher pour la première fois sur le cadre versaillais, non pas pour habiter le château, mais pour utiliser les locaux disponibles, et notamment la plus grande partie des locaux des ailes des ministres, qu'il attribue à l'hôpital des Invalides pour loger des blessés. Alors, l'intérêt pour le château de Versailles n'est pas nouveau, puisque sous le directoire déjà, il a été envisagé d'installer les représentants politiques et les conseils dans les espaces du château, notamment l'aile du Midi. Et ce projet n'est pas tombé dans l'oubli lorsque, au début des années 1800, on fait travailler à la remise en état, très partiellement du château, mais surtout du parc, des bosquets et des fontaines, dont on fait rejouer les eaux pour la première fois en juillet 1801. Lorsque, quelques années plus tard, la paix d'Amiens est signée, une courte période s'ouvre pour Versailles, c'est le retour des visiteurs étrangers au château, notamment des Britanniques, qui renouent avec la longue tradition, vous le savez, des visites diplomatiques et de ce qu'on a pu appeler le Grand Tour, les visites du Grand Tour. Le château devenait une des destinations privilégiées et les plus prisées, au point que l'on édita dès 1804, à gauche, le Cicérone de Versailles ou l'indicateur des curiosités et établissements de cette ville. C'est une publication d'importance puisque c'est la première publication, je dirais, touristique sur Versailles depuis la Révolution française. Alors, elle est rééditée une bonne dizaine de fois, mais surtout, je vous le disais, elle est publiée pour la première fois en 1804. 1804, ça coïncide surtout avec la date de Floréal en 12, notamment le 18, où Bonaparte est proclamé empereur par Senatus Consulte. C'est pas anodin. Donc, premier guide, Bonaparte devient Napoléon Ier, et dès sa proclamation en tant qu'empereur, les anciens châteaux royaux deviennent palais impériaux en étant affectés à la maison impériale de l'empereur. Donc il récupère toutes les demeures dans son giron, c'est l'article 15 du Sénatus Consulte Organique, et du coup, celui qu'on appelle maintenant Napoléon Ier, peut en prendre pleinement possession. Il semble, et c'est d'ailleurs, je date la première mention de l'intérêt de Napoléon pour Versailles en 1804, il semble que ce soit à partir de ce moment que l'empereur a souhaité venir habiter le château. Dans cet objectif, Goulard, que Napoléon vient de nommer directeur général du domaine impérial de Versailles, rédige, c'est ce que vous avez à droite, un rapport général sur le domaine impérial de Versailles et dépendances, qu'il remet à Fleurieux, le tout nouvel intendant général de la maison de l'empereur. Le grand maréchal du palais, Duroc, dont je vous épargne son prénom à tiroir, Géraud Christophe Michel, Duroc se rend en l'an 13, donc on est à la fin de l'année 1804, à Versailles, afin, je cite, de prendre possession au nom de Sa Majesté du château et de ses dépendances. Donc il est accompagné par Goulard, qui le présente à tout le personnel qui avait encore été entretenu à Versailles. Il est présenté au personnel, aux employés du domaine, et surtout prend connaissance de tous les états relatifs à l'administration. Sa mission était assez ingrate, puisqu'il est chargé d'expulser tous les habitants du palais, qu'ils soient autorisés ou non. Quelques mois plus tard, l'empereur se fait couronner, on est le 2 décembre, à Notre-Dame de Paris, par le pape Pie VII, qui est reçu le mois suivant, dès le 3 janvier 1805, à Versailles. C'est une journée hautement symbolique, puisque le pape, depuis le balcon de la Grande Galerie de Versailles, bénit l'ensemble de la foule qui s'est réunie sur le parterre d'eau et dans tous les grands appartements. Pour Napoléon, c'est une journée considérable, puisque le souverain pontife légitime Napoléon Ier en l'inscrivant dans la tradition monarchique. C'est le premier volet de cette légitimation. Le deuxième, ce sera le mariage avec Marie-Louise d'Autriche, qui le rattache directement aux descendants de Marie-Antoinette. Afin de constater l'état des bâtiments, puisque je vous ai mis en couverture l'expérience aérostatique des frères Montgolfier, le château était encore en assez bon état, rempli de foule comme il peut l'être encore aujourd'hui, mais au moment de la Révolution française, les intempéries, etc., on perd de la dorure, on perd des pierres d'appareillage, et le bâtiment s'est très largement détérioré. Donc Guillaume Trepsa est nommé par Napoléon architecte du domaine de Versailles. Il est très proche de Napoléon. Il est présenté d'ailleurs à l'empereur par l'architecte Fontaine. Et donc il est chargé de constater l'état des bâtiments et d'amorcer une première campagne de sauvetage. Malgré les expulsions que Duroc avait réussi à obtenir, donc il faut imaginer maintenant le château intégralement vide, tout le monde a mis sa literie sur le paillasson et a laissé la clé sur la porte, l'empereur, Napoléon Ier, ne se décide toujours pas, si j'ose dire, à faire ses cartons et à venir emménager dans le château. Il faut attendre mars 1805 pour que l'empereur se déplace pour la toute première fois à Versailles, afin de constater par lui-même les dégradations que l'architecte Trepsa, accompagné de Decubière, le conservateur des monuments extérieurs des parcs de Versailles et de Trianon, lui avait décrit dans un très long rapport. Donc on est le 13 mars 1805, et dès le 22, donc quelques jours après, séduit peut-être par Versailles, Napoléon décide de revenir, accompagné cette fois-ci de l'impératrice Joséphine. Il ne se contente pas du château, puisqu'il fait le tour de l'ensemble du domaine, et notamment des Trianon, donnant d'ailleurs des premiers ordres pour que des travaux de restauration des statues du parc, on sait que les bosquets avaient été rouverts, je vous l'ai dit, on restaure alors les statues du parc et les bosquets pour continuer cette mise en eau des fontaines. Alors l'architecte Trepsa, dont il n'existe pas visiblement de reproduction iconographique n'est pas très ambitieux. Il se charge des premières restaurations, Napoléon envisage de venir s'installer, mais il ne propose pas de programmation à long terme. Il est occupé aux restaurations, et d'ailleurs Fontaine le décrit comme un homme âgé qui a tout de même fait des projets pour Versailles, mais bon, il n'est pas tellement emballé. Et d'ailleurs, il écrit dans son journal, il a plus l'air d'un chef d'ouvrier que d'un architecte, il m'inspire peu de confiance. Alors face à l'ampleur de la tâche, mais surtout à cause du fait que le palais n'est pas habitable en l'état, l'empereur emménage à Trianon, dans l'attente de l'exécution des travaux. Et c'était d'ailleurs tout l'objet de l'exposition de 2005 par Jérémy Benoît. Mais son projet d'installation dans le château n'est pas enterré, puisqu'il commande à Pierre Daru, le nouvel intendant général de la maison de l'empereur, sachant qu'il avait déjà mis la porte Fleurieux, un projet général pour les réparations et l'ameublement du château de Versailles, qui est terminé par cette phrase « si elle se déterminait à l'habiter ». Donc, Sa Majesté l'empereur n'est pas encore tout à fait sûr de venir s'installer dans le château, mais on envisage quand même de commander un certain nombre de mobiliers et surtout de faire un certain nombre de restaurations. Daru, d'ailleurs, explique dans son projet que cette idée est beaucoup trop importante et il exige un trop grand travail pour en confier la rédaction à un seul architecte. Et d'ailleurs, il propose à Napoléon, comme ça avait été le cas sous Louis XVI, mais aussi dès Louis XIV, de nommer une commission d'architectes composée des trois grands architectes de ces palais, les Tuileries, Saint-Cloud et Versailles, auxquels seraient associés trois membres du comité consultatif des bâtiments de la couronne, réunion sur réunion, tout le monde allait se réunir en commission afin de pouvoir discuter de l'avenir de Versailles. Cependant, l'empereur est impatient, on connaît la fougue de Napoléon, et lorsque Daru lui rend son rapport, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il rentre dans une colère, mais il fait fi de son rapport, on l'imagine très bien jeté au feu ce document, et Daru est simplement relégué à quelques commandes de tenture et de tapisserie et de mobilier pour le palais. Donc Napoléon n'est pas sûr de venir habiter à Versailles, il s'installe à Trianon, mais bon, il faut déjà commencer à embellir l'intérieur à défaut d'avoir restauré l'extérieur. Le 28 janvier 1807, Fontaine est à son tour envoyé à Versailles pour y dresser des états d'ameublement et former des devis d'ouvrages nécessaires. Voilà à quoi pouvait ressembler, il faut l'imaginer vide, puisqu'on n'a pas de représentation de Versailles au tout début du règne de Napoléon. L'empereur refuse de perdre de temps à consulter tous les membres d'une commission et préfère confier la réflexion à un architecte qu'il connaît assez bien, c'est Jacques Gondoin. Cet architecte est averti officieusement par Napoléon de sa décision dès le 1er mars 1806. Il se rend à Versailles dès le lendemain afin de mesurer l'ampleur des travaux. Il écrit d'ailleurs dans sa correspondance pour y prendre une connaissance exacte de l'état de ce palais et réfléchir à une ébauche de projet. On sent toute la conscience professionnelle de Gondoin et surtout la volonté de faire plaisir à l'empereur en lui donnant des résultats immédiats. Du coup, lorsque l'empereur le charge officiellement de la mission d'architecture le 11 mars, Gondoin peut dès le lendemain non pas proposer un, mais deux projets au souverain. Le premier projet, plus économique, prévoit la reconstruction de la vieille aile que vous avez à gauche, au sud. Donc la reconstruction de la vieille aile dans le style d'Ange-Jacques Gabriel, ce qui satisfait assez bien Gondoin, puisqu'il admirait le travail de Gabriel, et tout naturellement, il décide de prolonger ce qu'on a appelé le grand dessin de Gabriel, et surtout essayer de rendre toute la symétrie à Versailles. Et il propose d'entreprendre la réfection de la cour royale, qui était devenue cour impériale. Le second projet est plus ambitieux, est toujours très proche des projets d'Ange-Jacques Gabriel, puisqu'il prévoit la construction de nouveaux corps de logis du côté des cours, cette fois-ci, en ménageant deux autres petites cours intérieures vitrées qui pourraient correspondre aux actuelles cours de la chapelle et à la cour des princes, et de nouveaux appartements pour la cour impériale. On se rappelle de Louis XIV qui parlait toujours de la nécessité de loger sa cour et le toujours plus d'appartements qu'il fallait installer. L'empereur, qui est très investi dans la réflexion du programme versaillais, on peut même le comparer à ce Louis XIV architecte, demande à Gondouin de poursuivre et d'approfondir ses projets avant qu'il ne le convoque le 29 avril pour se rendre compte sur place des différents projets. Comme Louis XIV, il se fait présenter, il faut imaginer les grands plans, hein, de parfois plusieurs mètres de grandeur, présentés devant l'empereur en pleine cour royale ou en pleine cour de marbre. On imagine ça, voilà, il faut imaginer Gondouin avec son paquet de rouleaux sous le bras et puis il déplie ça à l'empereur comme il peut. Et d'ailleurs, Gondouin note « Sa Majesté a ordonné le 19 mars 1806 qu'il fût fait un projet général pour la restauration complète du palais de Versailles. Elle a prescrit que les dépendances en fussent calculées avec la plus grande exactitude. Elle a désiré que les plans fussent détaillés de manière à pouvoir être immédiatement exécutés. » Du coup, Gondouin présente ses premiers devis à Napoléon à cette occasion, qui monte au montant environ entre 20 et 22 millions de francs et du coup pose en bon financier la question du financement. Alors Boyard, qui était le chef de la liquidation générale, remet à Fleurieux un mémoire proposant une solution étonnante, je dirais presque avant-gardiste, puisqu'il s'agissait d'un financement participatif qu'il décrit comme arithmétiquement démontré par un état général. Alors l'auteur met en avant l'hésitation de l'empereur sur un financement aussi important en temps de guerre, qui rétorque, je cite, « Eh bien, ce que la prévoyance ajourne, l'enthousiasme national doit l'accélérer. » Il propose en effet l'acquisition de 20 000 actions viengères d'un montant de 1 000 francs, ce qui permet du coup de réunir les 20 millions qu'il recherchait pour financer l'intégralité du chantier. Depuis la nomination de Gondouin en tant qu'architecte de Versailles, en concurrence de Trepsat, du moins pour ce projet, et pendant 18 mois, jusqu'au 2 octobre 1807, Jacques Gondouin fournit un travail acharné. On pourrait même considérer qu'il y a laissé la santé, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Il se consacre à un travail très important, à imaginer, dessiner, toiser, estimer les moindres petites interventions. Il va jusqu'à dessiner la moindre petite baguette. Il faut imaginer qu'il traite de la même façon de la reconstruction intégrale d'un bâtiment jusqu'à la moindre petite baguette de porte. Toutes ces interventions qu'il prévoit pour le palais, le résultat de son travail, qu'il d'ailleurs décrit comme extrêmement facile à saisir, eh bien occupe 52 volumes. Vous avez le dos d'un des volumes au centre, 52 volumes, avec que des chiffres. Ils sont tous encore conservés à Versailles, ici, au service des archives de l'établissement public de Versailles. Personne ne les ouvre jamais parce que c'est totalement aride et absolument affreux. C'est des calculs à toutes les pages. Et en plus, je vous ai mis une des premières pages, il écrit à peu près bien. Mais bon, il faut l'imaginer, avec son écritoire, dans le parc ou dans le château, il écrit sur ses genoux, sur le dos de son porteur, etc. Donc des fois, c'était pas de mouche, on a des traits de plume qui traversent toute la feuille parce que, je sais pas, il est tombé, il a éternué, enfin, c'est assez impressionnant. C'est des brouillons, mais il faut imaginer 52 volumes. 52 volumes pour un montant total de moins de 25 millions de francs. C'est quand même pas mal pour restaurer intégralement Versailles. Et un 53e, dont je vous ai mis la page de titre à droite, qui est le détail des prix employés à l'établissement du devis. Gondouin est très intelligent, puisqu'il sait très bien que Napoléon va lui demander des chiffres. Bon, des chiffres, il va lui en servir, on a 52 volumes. va lui demander des chiffres, mais surtout, il faut les arrêter. Et il décide d'arrêter dans un gros volume, à peu près épais comme ça, tous les prix de chaque matériau, de chaque service, avec chaque ouvrier. Il a fait une sorte d'appel d'offres. Il a réuni tous les devis, toutes les propositions. Le moindre toisé de pierre est noté et comptabilisé. Et pourquoi il arrive à 25 millions de francs et pas les 60 millions de francs que l'historiographie a conservé? Je ne citerai pas qui a parlé de 60 millions et continue à parler de 60 millions de francs, mais il y en a certains qui continuent à parler de 60 millions de francs. 60 millions de francs, oui, la somme apparaît à la fin du volume 52. Mais avant, une bonne dizaine de pages qui déduit la revente de tous les matériaux. Et du coup, dès la bourse personnelle de l'empereur, ça ne fait que 25 millions de francs. Ce qui est quand même assez raisonnable. Ces recueils de devis complètent une série de 47 plans, élévations et coupes que Gondouin décrit comme une suite de tableaux exécutés avec une perfection rare. Donc en plus, il travaille en toute humilité, c'est magnifique. L'ensemble de cette documentation est accompagné d'un rapport général de 67 pages daté à la fin du 10 octobre 1807 et intitulé, je vous l'ai retranscrit au milieu, « Rapport à M. Daru, conseiller d'État, patati patata, tous ces titres, sur les constructions et réparations à faire au château de Versailles, conformément à l'arrêté de Sa Majesté du 11 mars 1806, donc date de la nomination de Gondouin, par Gondouin, architecte, membre de l'Institution et de la Légion d'honneur. » 67 pages, c'est peu et en même temps considérable. Il y décrit donc tous ses travaux et ce document est suivi de l'état de tous les plans, coupes et élévations. Je vous le disais, ces 52 volumes sont illustrés à part sur des très grandes planches et pour ne rien perdre, et c'est son souci d'organisation, il propose un inventaire de tous les documents qu'il remet à Daru. Comme ça, l'intendant peut cocher et surtout, Gondouin est sûr d'avoir tout remis à l'empereur. Les deux projets y sont décrits, mais seul le deuxième, pour le deuxième, il rentre dans une description absolument minutieuse et en donne donc les devis, car, c'est son explication, on a préféré donner les détails de celui dont la dépense s'élève le plus haut. L'ensemble de ces projets a pour objectif de rendre au palais de Versailles son premier éclat tel qu'il était sous Louis XIV, en y ajoutant un nouvel éclat, par la construction de la façade sur les coups. C'est important. Le premier projet de Gondouin, c'est rapporter Versailles tel qu'il était sous Louis XIV. Parce que ça va changer jusqu'à 1811, donc je préfère marquer les différentes étapes. Donc pour le moment, on décide de restituer l'état Louis XIV. Toutes les nouvelles constructions ont été distribuées grâce à l'étiquette du palais impérial, un petit registre très intéressant qui décrit pour chaque situation le protocole à adopter en face de l'empereur et pour le volet architectural détermine quelle pièce doit aller après laquelle autre et surtout ce qu'on y fait, etc. C'est ce qui manque pour l'ancien régime. C'est pour ça que des générations et des générations et des générations d'historiens s'arrachent les cheveux pour comprendre le cérémonial à la cour de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, alors que pour Napoléon, il suffit d'ouvrir ce petit opuscule, tout est écrit et ça se passait comme ça. Les travaux les plus considérables sont prévus du côté de la ville et Gondouin explique que les deux projets ont été disposés pour donner beaucoup plus d'étendue à la cour impériale qu'elle en a présentement. Donc on a grandi le château. On a décoré sa façade plus richement que celle de la cour des princes en conservant toujours la même ordonnance. On a placé au milieu de cette dernière cour un bassin en marbre avec un effet d'eau dont le trop-plein sera employé momentanément, à nettoyer les aqueducs qui sont sous le palais et à entretenir les bassins des jardins. Donc il réfléchit à tout un système de canalisation, ce qui n'était pas le cas. Vous rappelez peut-être de ce projet de 1680, si ma mémoire est bonne, qui mettait en plein milieu de la cour royale un grand bassin qui servait plus ou moins de rond-point aux carrosses qui venaient déposer les ambassadeurs dans cette cour, et il n'y avait pas de système de trop-plein. Là, Gondouin imagine que lorsque le bassin sera trop rempli, l'eau sera déversée dans les aqueducs, donc dans les adductions d'eau type égout, qui passent sous le château pour les nettoyer, les assainir, et tout ça sera reporté vers la ville. Les 67 pages de ce rapport renvoie à une série de documents iconographiques réalisés par Gondouin, je vous le disais, et sur cette série, seuls 3 plans sur 32, c'est pauvre, vous allez me dire, sont aujourd'hui identifiés aux archives nationales. 2 plans y sont signés, en bas à gauche par Gondouin, vous voyez bien sa signature, en dessous de la lettre R, signé par Gondouin, le premier rez-de-chaussée des bâtiments de la suite de l'aile du Midi, et celui du bas, premier étage des bâtiments à la suite de l'aile du Midi, qui correspondent à la lettre R de l'état des plans. Donc cet état des plans qui était l'inventaire à la suite des 52 volumes, je vous le disais, tous les plans sont identifiés par des lettres alphabétiques, et ici vous avez les 2 plans qui sont réunis sous la lettre R. Et également un plan général qui est ici, alors, je vous l'accorde, la photo est absolument catastrophique, mais c'est un plan absolument gigantesque, et à moins d'avoir une échelle, ce que je n'avais pas ce jour-là aux Archives nationales, il est impossible de le photographier bien au-dessus avec les bonnes couleurs et un bon éclairage, et il est même très difficile de le déplier. Donc, vous avez toujours cette image de Gondouin avec tous ses rouleaux de plans sous le bras qui déplie ce plan de plusieurs mètres en pleine cour royale, cour impériale, pour le présenter à l'empereur. Sur ce plan, du coup, le projet de construction d'une aile en pendant de celle, donc vous avez celle de Gabriel, l'aile en pendant, la reconstruction de toutes les façades dites de Louis XIII sont portées en rouge. C'est le premier projet de Gondouin. Sur l'état des plans, vous voyez qu'il y a aussi des élévations qu'on n'a pas retrouvées et aussi des planches. Sur les 7 planches qui sont des coupes, aucune n'est identifiée dans son intégralité. Mais 11 fragments peuvent être attribués à Gondouin et associés à ce premier projet. Voilà. Vous les avez sûrement vus, du coup, à l'exposition de 2005. Ils sont reliés, ils sont montés sur onglets dans un magnifique recueil orné du chiffre impérial, dont les plats portent les 4 aux 4 angles des aigles couronnés, intitulé, je vous l'ai remis en bas, dessins, aquarelles, originaux des appartements de l'empereur Napoléon Ier et de l'impératrice Marie-Louise au palais de Versailles. Et ce que je vous ai pas mis, parce que c'est ce qui vient contredire cette première attribution, sur la page de titre, il est noté, rajouté à la plume, 1810 par Percy et Fontaine. Ils sont conservés en collection particulière, ce n'est pas un secret, ils sont conservés dans les descendants de la famille de l'architecte Fontaine, et ils n'avaient jamais été, jusqu'à l'exposition de 2005, réattribués à Gondouin. C'est Christian Bolez, le premier, à énoncer cette hypothèse, mais il ne va pas assez loin, il ne va pas plus loin. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Puisque la technologie nous permet de faire des montages fantastiques, merci Photoshop. Si je mets bout à bout 5 aquarelles de Gondouin, on tombe sur une des planches complètes décrites par l'architecte dans son état des plans. C'est la coupe L, je cite, prise depuis le Salon de la Paix, que vous avez à l'extrémité, on va se décaler vers la droite, le Salon de la Paix, jusqu'à l'extrémité de l'aile à construire, donc là il en manque une partie, c'est pour ça que je vous disais que aucune des coupes n'est intégrale. On y voit au premier étage les appartements de l'impératrice, la salle de bal ou salle de concert, les vestibules et foyers qui précèdent la salle de l'appartement. Au rez-de-chaussée, l'appartement de l'empereur, le passage du Midi, la garde-robe de Sa Majesté, alors vous me faites confiance, hein, c'est ce qui est marqué à chaque fois à l'encre par Gondouin, hein. La garde-robe habit de Sa Majesté, le théâtre, donc c'est l'accès au théâtre, et le magasin des pompes jusqu'ici. Donc ils correspondent à ces 5 dernières planches du recueil dit Percy et Fontaine, mais il s'agit bien du recueil de Jacques Gondouin. Et vous allez me demander pourquoi, si elles sont attribuées à Jacques Ondoin, il se retrouve aujourd'hui dans la famille de Fontaine. Je ne vous dévoilerai rien, je vous en parle tout à l'heure. Du coup, Gondouin termine l'établissement de ses plans et devis le 2 octobre 1807, avant de rédiger, le 10 octobre, le rapport général qu'il décrit comme le résultat d'un travail long et pénible. Il disait, hein, il était sur les rotules, il faut imaginer qu'il a arpenté Versailles en long, en large et en travers. Et il précise, puisqu'il m'a tellement fatigué et vieilli, que je serais incapable de le recommencer. Alors Napoléon le convoque à Fontainebleau pour lui présenter les 52 volumes. On imagine très bien Gondouin faire la route Versailles-Fontainebleau avec sa petite charrette et ses 52 volumes, en présence de son homologue Fontaine, afin de lui présenter eh bien, ses différents plans, tous ses rouleaux sous le bras, et lui rendre son rapport. Et Gondouin, avec l'humilité qu'il caractérise, on l'a déjà vu, se permet d'écrire à Daru « Sa Majesté a vu tous les dessins et rapports que j'ai faits, elle s'en est occupée pendant 4 heures et a daigné applaudir. Elle s'est fait lire et a relu elle-même mon rapport et examiné avec intérêt tous les dessins. » Alors, c'est lors de cette réunion que Fontaine se voit confier la mission de rédiger un rapport général sur tous les projets qui ont été formés à différentes époques pour la restauration du palais de Versailles, et particulièrement sur celui de M. Gondouin. On donne une double mission à Fontaine, une mission historiographique, on lui demande de réunir tous les plans qui concernent Versailles, et en même temps on lui demande son avis sur ce que Gondouin vient d'apporter dans sa petite charrette. Pour ce faire, Dominique Vivant-Denon, qui était à la tête du musée Napoléon, au Louvre, avait autorisé le 4 novembre 1807 le conservateur du musée spécial de l'école française à remettre les différents portefeuilles contenant les plans des architectes du 18e au responsable de la commission des bâtiments de la couronne, qui le remet enfin à Fontaine. À chaque fois, les archives nationales ont conservé tous les bons de remise, ce qui vous fait une liasse considérable, puisque pour chaque plan, il y a un bon de remise signé par un tel qui passe, on dirait l'administration française, qui passe ensuite dans un autre bureau, puis un autre bureau, avec une trentaine de cachets. C'est assez impressionnant. Le portefeuille, alors il lui remet le portefeuille de Gondouin, contenant les 47 dessins. Dominique Vivant-Denon donne les plans de Gondouin à Fontaine, et ils n'ont jamais bougé depuis. Voilà pourquoi les planches de Gondouin sont dans la collection des descendants de Fontaine. Mais il donne également ceux de Père l'aîné et Père le jeune, hein, ceux de Boulay qui sont présentés à l'exposition actuelle sur l'architecture et l'utopie, ceux de Paris, ceux de Huvet, ceux de Potin qui sont un peu plus méconnus, et ceux d'Arnaudin. Il en manque qu'un seul, je vous le disais au tout début de ce propos, Trepsa, le seul qui est vraiment architecte du domaine de Versailles. Il n'est pas du tout dans les plans qu'on remet, et bon, il connaît Fontaine. Donc on imagine très bien qu'il lui remet sur un coin de table, sous le manteau, si j'ose dire, son propre projet pour qu'il puisse faire un rapport général et intégrer Trepsa. On ne sait jamais, son projet aurait pu être retenu. Alors, Fontaine porte un jugement sévère sur tous ses plans, puisqu'il note dans son journal, je vous cite tout le passage parce que c'est assez savoureux, « J'avoue que je ne suis pas ici dans l'embarras des richesses, car excepté l'ouvrage de M. Père le Jeune, qui détruit presque tout, mais dans lequel on trouve une belle disposition et une recherche particulière de détails, je ne vois dans cette nombreuse collection que des choses beaucoup au-dessous de la réputation des architectes qui en sont les auteurs. » C'est aussi lors de cette réunion, donc on est toujours le 22 octobre 1807, tout se passe à peu près à ce moment-là, que Napoléon dicte à Fontaine ses toutes premières observations sur quelques parties de ce travail, ce sont les mots de Napoléon, qu'il est chargé eh bien, de transmettre ensuite aux différents architectes. C'est un petit peu le même travail. Louis XIV dictait à Colbert, raturait ensuite en marge. Là, Napoléon ne s'embête pas à prendre sa plume, il dicte directement à Fontaine, qui lui retranscrit tout dans son journal et ensuite envoie toute la correspondance. Et donc il lui dicte « Le projet fait par M. Gondouin paraît bien entendu. » Bon, c'est normal, c'est lui qui l'avait nommé, donc il a sa préférence. mais il n'est pas dans mon intention de faire précéder mon habitation à Versailles par de nouvelles bâtisses. Bon, tant pis, du coup, le projet n'est pas retenu. Mais c'est à partir de cette date que Fontaine travaille à la lumière de la comparaison de tous les autres plans, il travaille à la lumière de ses pairs, et il propose, eh bien allons-y, son propre projet. Une version, finalement, revue et corrigée du projet d'Ange-Jacques Gabriel. Vous avez ici le projet de Gabriel, et ici le projet de Fontaine. Les similitudes parlent d'elles-mêmes. Je vous parle juste 2 minutes de ce recueil. Le recueil est présenté à l'exposition d'architecture. Il est ouvert sur un double plan. Il est difficile de présenter les autres, puisqu'ils sont tous montés sur onglets. C'est un recueil qui a appartenu à Dufour, qui, pour comprendre tous ces plans, a fait imprimer un fond de plan. On le voit ici, hein, que c'est exactement la même chose. A fait imprimer un fond de plan à ses frais, à chaque fois au rez-de-chaussée, puis découpé en retombe le premier étage, sur lequel il a lui-même recopié tous les plans d'Ancien Régime pour avoir cette sorte de base d'architecture, de projet, sous les yeux, qui ont ensuite été montés sur onglets. C'est bien pour ça qu'ils sont tous de la même taille et ont été imprimés sur du papier spécifique. Donc il propose son propre plan, qui est une sorte, c'est ce qui est, voilà, je vous ai mis les légendes ici, c'est une sorte de Gabriel 2.0, hein. Il propose sa nouvelle version en signant tout de même Fontaine, mais en rendant à César ce qui appartient à César. Il reprend l'agencement général des façades, à l'exception de l'avant-corps du fond de la cour qui était devenue cour impériale, et en modifie les distributions intérieures pour l'adapter au service habituel grâce à l'étiquette, le livre intitulé L'étiquette que je vous ai présenté tout à l'heure. Dans un souci de symétrie, il place le grand escalier de l'empereur en face du grand escalier de l'impératrice. Napoléon, alors qu'il revient de Versailles, où il était parti chasser et sûrement profiter pour réfléchir à ses projets d'architecture, revient à Fontainebleau, où Fontaine lui présente ce projet, et après un examen complet, ce sont les mots de Fontaine, et après différentes discussions sur les inconvénients d'avoir à se conformer dans les limites tracées par Louis XIV, l'empereur dicte à l'architecte une nouvelle note. Donc il y a quelques minutes, j'ai fait une pause, puisque pour vous expliquer que l'objectif de Gondouin, c'était de remettre Versailles dans l'état Louis XIV. Là, l'empereur, bon, il en a marre. Il y a l'héritage de Louis XIV, c'est assez pénible, il faut rentrer dans ses murs. Bon, est-ce qu'on envisage de tout raser? C'est une question qu'il aurait pu se poser, comme Louis XIV se l'est posé au tout début des années 1660. Et donc, il lui dicte cette note: réparer toute l'aile des princes et l'aile du Nord en ne rétablissant que ce que Louis XIV a fait et considérant ce que Louis XIII a fait comme devant être démoli. Bon, finalement, on conserve un peu de Louis XIV, parce que bon, ça coûterait trop cher, mais tout ce que son père a fait, hop, on rase. Dans les deux ailes, on peut mettre autant d'officiers qu'on veut. Alors, Napoléon, tout en établissant un nouveau programme de travaux sur plusieurs décennies, décide de la suppression intégrale du gros œuvre datant de Louis XIII. Fontaine, très ambitieux et très optimiste, n'est pas encore découragé, et il propose un autre projet à l'empereur. Il s'agit d'une proposition plus ambitieuse. Il s'écarte un petit peu du projet de Gabriel, même s'il en reprend l'agencement général. Il détruit du coup l'ensemble des constructions de Louis XIII. On voit bien comment il agrandit la cour impériale, comme l'empereur finalement lui avait demandé. Et il reprend l'agencement des pièces suivant ce que disait l'étiquette du palais impérial. Ils sont bien annotés dans chaque... du moins dans l'ordre que l'ouvrage le dicte. Et il propose un certain nombre de couloirs, notamment au premier étage, pour dégager les pièces. On n'est plus dans cette idée de passer de pièce en pièce par des tout petits recoins, des portes en angle, des portes de souris. Mais bon, on assume le grand couloir, on dessert par une dizaine de portes, il n'y a aucun problème. Au fond de la cour, l'architecte crée un grand vestibule sur toute la largeur du palais, précédé par un grand portique à colonnes longeant tout le corps central. Ici, c'est très romain comme projet. Et les deux retours, puis vient fermer la cour. On n'a plus de grille, on a cette sorte de galerie avec une sorte de mini arc de triomphe, du moins de quoi passer en carrosse et pouvoir venir déposer l'empereur au pied de ses appartements. Le portique du fond de la cour impériale, actuelle cour de marbre, supporte au premier étage, donc je viens de rabattre la retombe, supporte au premier étage un péristyle ouvrant sur les appartements de l'empereur, et la galerie couverte au rez-de-chaussée est couronnée par une terrasse qui est notée comme galerie de circulation entre les deux ailes. Encore actuellement et sous l'Ancien Régime, si vous vouliez passer du nord au sud, vous étiez obligé de passer par tous les grands appartements pour être au sec, ce qui était assez compliqué si le roi était là, ou alors de se mouiller ou de se crotter, comme disait Madame Palatine, à travers la cour pour passer d'une aile à l'autre. Et il place toujours le grand escalier de l'empereur en face du grand escalier de l'impératrice, en créant une seconde salle de spectacle directement au sud de l'actuelle cour des princes. Tous ces débats ne sont pas suivis de décisions fermes. Napoléon tergiverse et les projets de Fontaine semblent tomber une nouvelle fois dans l'oubli. Alors, entre les mois d'avril et d'octobre 1809, Napoléon est en campagne, c'est la campagne d'Allemagne et d'Autriche, mais le 14 octobre, il signe le traité de Schönbrunn. Je vous réduis considérablement l'histoire des batailles napoléoniennes. Le traité de Schönbrunn entre l'Empire français et l'Empire d'Autriche, qui met un terme à la 5e coalition, l'Autriche se repent, devant reconnaître l'ensemble des conquêtes napoléoniennes. En gros, Napoléon apparaît comme le grand arbitre de l'Europe. Il revient à Paris, sa vie conjugale ne lui plaît plus tout à fait, et il décide conjointement avec Joséphine de dissoudre leur mariage, dont il fait l'annonce en décembre 1809. Et, miraculeusement, en janvier 1810, l'empereur songe à se remarier et donne des ordres pour que le palais de Versailles soit restauré, réhabilité et surtout rendu habitable. Et c'est la première fois qu'il parle de délai, rendu habitable pour l'hiver prochain et pour la somme de 6 millions. Donc il appose la date et l'argent. Somme que Napoléon ne veut pas dépasser depuis que Fontaine lui avait proposé de cette somme de 6 millions juste pour, en gros, refaire les peintures, changer les portes, changer les serrures et non pas restaurer intégralement Versailles. Mais bon, l'empereur garde ça dans le creux de l'oreille et il ne veut plus démentir. En février, le projet de mariage entre Napoléon Ier et Marie-Louise d'Autriche est arrêté. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la nièce de Marie-Antoinette. Du coup, Napoléon Ier s'apparente à l'ancienne famille royale des Louis XVI depuis qu'il se marie le 1er de avril. Et l'ambition architecturale de Napoléon est relancée, on a l'impression qu'il se reposait de ses campagnes, il est revigoré par l'ère de Versailles et il décide de nouveau de construire. Et à plus forte raison, lorsque Marie-Louise lui annonce qu'elle est enceinte en juillet. Alexandre Dufour, qui s'était fait discret, il avait restauré, grosso modo, il avait recellé les pierres qui commençaient à tomber, il y avait quelques travaux de restauration, saute sur l'occasion et propose un vaste projet de redistribution des espaces. Voilà son projet, beaucoup plus épuré. Il souhaite supprimer les bâtiments datant de Louis XIII. Dans ce cas-là, bon, il n'a rien inventé, il reprend Fontaine. Et surtout, il reprend un ordre de Napoléon. La première innovation de Dufour réside dans la suppression des pavillons extrêmes et de toute l'aile Gabriel et du coup de son pendant de la vieille aile et de l'ancien pavillon de la vieille aile, actuel pavillon du four. En conservant le pavillon qui est raccroché au niveau de l'actuelle cour royale, ancienne cour impériale. Et du coup, il prolonge, grâce à l'instauration de deux escaliers, quelque part, l'enveloppe de Levaux vers la ville, puisqu'il ne raccourcit pas non plus le château. Ces deux nouvelles constructions abritent, je vous le disais, les escaliers monumentaux et bénéficient d'un traitement architectural, vous le voyez ici très subtilement, des colonnes et des portiques qui sont du coup très significatifs du côté de la ville. Il faut voir des grandes arches surmontées très probablement de statues monumentales. La deuxième innovation est plus audacieuse puisqu'il s'agit de créer ce corps de bâtiment quadrangulaire ici en plein milieu de l'actuelle cour de marbre afin d'y placer une salle du trône au premier étage. Donc on est au premier étage puisqu'il s'agit de la retombe, hein. On voit bien salle du trône, le trône au centre avec de chaque côté une série de colonnades. C'est l'obsession de Napoléon, les colonnes, depuis qu'il a vu le grand péristyle du Grand Trianon, il en veut absolument partout. Et surtout, la grande innovation, ça permet de restituer la grande perspective en majesté depuis le fin fond du parc jusqu'au bout de l'avenue de Paris. Perspective qui avait été obstruée lorsque Louis XIV installe sa chambre en 1701 au centre du corps de logis central et qu'il obstrue ces trois baies qui donnent dans la galerie des glaces. Enfin, la troisième innovation se caractérise au premier étage par un corps de bâtiment devant abriter un théâtre, donc il pique un peu l'idée à Fontaine, mais il lui donne une forme très intéressante puisque à l'extérieur, il aurait été impossible de différencier la salle de spectacle de la chapelle. Les deux auraient bénéficié du même traitement architectural. Le baron Costaz, l'intendant des bâtiments, demande à Gondouin son expertise afin d'étudier la viabilité du projet de Dufour. Et d'ailleurs, on n'entend plus parler, il semble que Gondouin ait un petit peu critiqué Dufour, et on met aux oubliettes celui qu'il a appelé Monsieur Dufour, hein, projet en supprimant l'aile neuve. D'ailleurs, Fontaine, pour clôturer la réunion, note dans son journal, c'est une des seules fois où il est aussi peut-être violent dans son écriture, grand pour parler, discussion, incertitude, chose inutile, et pour tout résultat, suspense, rien. Cependant, tout allait être relancé. Le 20 mars 1811, le roi de Rome naît, ce qui relance de manière significative la réflexion sur le choix adopté entre bien une pure restauration ou une modification du gros œuvre intégrale du palais de Versailles. Dès janvier, Napoléon relance les discussions sur le rétablissement de Versailles et se fait représenter 7 plans de nouveau. Donc là, c'est pas Gondouin, c'est Fontaine, mais on l'imagine toujours avec les rouleaux de plans sous le bras en train de présenter ça à l'empereur à Fontainebleau. Et Fontaine conclut « Aucun parti n'est pris, sinon celui de ne dépenser pour tout restaurer que 6 millions. » Bon, Napoléon est buté, c'est foutu. Les 25 millions, c'est mort, ce sera 6 millions. Du coup, la volonté d'emménager dans le palais est une nouvelle fois affirmée par Napoléon, qui repasse de nouveau des commandes de mobilier et de tenture. Le 11 juillet, l'empereur se déplace à Versailles. Il refait une visite minutieuse. Il veut tout voir avec les plans. Il veut voir ce que ça donne, ce que ça pourrait donner, ce qu'il y a actuellement, ce qu'il imagine. Il donne des idées. C'est toujours ce Napoléon architecte qu'on avait jusqu'à présent du mal à saisir. Cette visite prépare la réunion qu'il allait tenir au Grand Trianon, sous le péristyle, comme par hasard, les colonnes, le lendemain. Fontaine rapporte dans son journal que l'empereur s'est fait présenter nos projets pour le rétablissement de Versailles et entre autres celui de Monsieur Heurtier. Voilà, celui de Monsieur Heurtier, dont un officier de la cour lui avait dit le plus grand bien. Un petit plan joint à ce projet et sur lequel Louis XVI avait, dit-on, écrit de sa main la désignation des pièces et surtout fixé son attention, mais n'a pas été approuvé. Voilà. Donc Heurtier, Jean-François Heurtier avait proposé ce projet vers 1781 à Louis XVI. On voit comment il était très ambitieux, très avant-gardiste pour Louis XVI, mais finalement pour Napoléon, il y a des colonnes partout, ça passe. La réunion atteste de ce tempérament vacillant de l'empereur qui décide, heureusement que vous êtes bien assis, qui décide de cette fois-ci conserver les constructions datant de Louis XIII. À mon avis, il avait dans la tête les 6 millions, il fallait faire des économies, bon, on va tout garder. Et Fontaine écrit « Je ne puis m'empêcher », en approuvant un peu cette idée, bon, il fallait quand même qu'il soit du côté de l'empereur, hein, « de faire remarquer que son exécution doit paraître extravagante et même ridicule. » Oui, 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 même en 2019, ça paraît toujours autant ridicule. « J'ajoute que ne pouvant faire mieux que Louis XIV, ne voulant pas détruire les petites constructions des Louis XIII, le parti selon moi préférable à tous serait de remettre Versailles, avec quelques améliorations, dans l'état exact où il était sous Louis XIV. » Bah voyons, on retourne encore en arrière. C'est juste ce que Gondouin avait dit 4 ans plus tôt. On évitera ainsi, ai-je dit, toute comparaison et toute espèce de parallèle inconvenant. Fontaine termine en précisant qu'après une très longue discussion dans laquelle rien n'a été décidé, bah voyons, il fait, ça aurait été bien étonnant que Napoléon décide quelque chose, d'un point de vue architectural, j'entends, je n'enlève rien à toutes ces campagnes, s'est rendu à Versailles, y a parcouru en détail les détours du château, bon, visiblement, pour se promener, il était fort, et s'est arrêté longuement dans la cour où je lui ai fait connaître et juger d'une manière plus palpable toutes les difficultés, tous les inconvénients des différents partis proposés. À défaut d'avoir pu le convaincre dans la galerie du Grand Trianon, il l'emmène dans la cour impériale et lui montre ce qu'il est possible de faire ou non. Bon, Dufour n'est pas trop bête, il présente du coup un nouveau projet. Lors de cette réunion, les constructions datant de Louis XIII demeurent partiellement conservées. Bon, du coup, la cour impériale est un peu moins large, mais les constructions de Louis XIII sont conservées. Mais précédées par une galerie couverte, voûtée en croisée d'ogives, qui fait quasiment le tour de la cour. Là où il se différencie de Fontaine, c'est que il remet une grille et on perd cette galerie de circulation. Tant pis pour l'empereur, il sera crotté pour passer d'une aile à l'autre, qui vient se plier à angle droit sur les deux grands pavillons orientaux, qui abritent de nouveau deux escaliers monumentaux. Ah bah oui, il a changé le sens des volets. Donc hein, voilà, c'est pas de plagiat, hein, il a changé le sens des escaliers, tout va bien. L'immense salle du trône qui était là est oubliée. Elle disparaît et Dufour place la chambre de l'empereur à l'emplacement de la chambre de Louis XIV. Enfin, ici vous avez le rez-de-chaussée, mais il faut l'imaginer, hein, pile poil au-dessus. Voilà. Ah bah oui, Napoléon avait dit on garde tout ce qui est Louis XIV maintenant. Donc on remet la chambre dans celle de Louis XIV. L'architecte bouleverse toute la distribution intérieure en plaçant les appartements des princes au rez-de-chaussée, dans les anciens appartements dauphin-dauphine, et puis les appartements du grand maréchal et des ambassadeurs de l'autre côté. Bon, c'est peut-être un peu trop innovateur pour pour Napoléon. Lors de cette réunion, Fontaine présente une nouvelle fois son plan. Lui, il n'avait pas le temps de redessiner quelque chose sur un bout de papier. Il représente le même, on ne sait jamais, sur une erreur, ça peut passer, sur un malentendu, ça peut passer. Le résumé de l'examen fait par Sa Majesté le 12 juillet 1811, des projets qui lui ont été présentés pour terminer le palais de Versailles. J'aime beaucoup le « pour terminer », comme si on avait commencé quelque chose. Je pense qu'on est toujours en 1804, rien n'est fait, rien ne se pose. C'est pourtant un document assez précieux pour connaître le changement d'ambition de l'empereur. Sa Majesté remarque qu'il ne s'agit pas de bâtir pour se procurer de logement. Bon, là, il se met en opposition à Louis XIV. Il en existe assez, tant mieux. Il faut faire une construction qui annonce le palais avec grandeur du côté de Paris. Ce n'est pas un ouvrage d'utilité, mais un ouvrage d'ostentation qui ne peut pas être médiocre. Il faut ne rien faire si l'on ne veut pas faire une chose qui rivalise de beauté avec la partie bâtie par Louis XIV. On conserve, mais on essaye de surpasser. Il faut écraser Louis XIV. Vive l'empereur. Il ne s'agit plus, du coup, de ce simple objectif de rendre habitable le palais. Fontaine, il doit être au bout du rouleau, note dans son journal que les dispositions intérieures qui à l'époque de M. Gondouin avaient été considérées comme l'objet principal ne sont plus aujourd'hui que l'accessoire. L'empereur veut de la magnificence et de la grandeur. Bon, l'architecte exagère dans ses propos puisque Napoléon rappelle quelques pages plus loin qu'il faut refaire la disposition des différents appartements comme l'étiquette le prévoit. Bon, là, on le sait très bien, c'est un pic pour Dufour qui avait un peu tout bouleversé. Et voilà, il faut tout remettre comme c'était avant, mais il faut intégrer mes idées quand même au passage. Fontaine est sans nul doute amer, puisque son projet est vivement critiqué par l'empereur. C'est la deuxième partie de citation qui critique donc le projet de Fontaine. L'aile Gabriel est de mauvais goût. Bon, comme ça, c'est bien, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Si l'on exécutait le projet en entier, le fond de la cour serait trop étroit et les deux ailes parallèles seraient trop longues relativement à la largeur de la cour. Ce projet coûterait plus de 12 millions et produirait un effet mesquin. Si on laissait l'aile Gabriel telle qu'elle est, sans la pousser plus loin, il serait impossible de la raccorder d'une manière passable avec les constructions existantes. On serait de plus forcé d'en construire une semblable en face. Après avoir tout critiqué, on pourrait dire « Bon ben, mon coco, Napoléon, il est temps que tu nous dises ce que tu veux. » Et c'est le premier à le faire, parce que les souverains de l'Ancien Régime ne le faisaient pas vraiment. Mais là, Napoléon, je ne peux pas dire prend la plume puisqu'il dicte tous ses documents, mais expose sa propre vision. Et, je voulais citer, in extenso, parce que c'est important. On pourrait construire un arc de triomphe, la folie des grandeurs, Napoléon. Un arc de triomphe qui annoncerait avec magnificence l'entrée du palais. Pour en augmenter l'effet et le rendre plus pittoresque, on ferait au fond de la cour une percée par laquelle on apercevrait le ciel et de la lumière. Mais lorsqu'on serait arrivé sous l'arc de triomphe, on éprouverait un sentiment désagréable en ne voyant que des bâtiments gothiques. Louis XIII, hein, bâtiments gothiques, au sens de voilà, ancien régime, plus à la mode, mais j'aime beaucoup cette expression. Il faudrait que l'œil puisse saisir de ce côté l'ensemble du palais. Pour cela, il faut mettre à découvert autant que l'on pourra les faces des ailes du palais qui s'étendent sur les rues de la surintendance et les réservoirs. Tout le monde convient que l'aile Gabriel a augmenté la difficulté du problème. Il faut examiner si on ne la diminuerait pas en supprimant cette aile et celle qui est en face. Cette suppression laisserait apercevoir que le palais a une grande étendue sur la droite et sur la gauche. On examinera encore s'il ne conviendrait pas de construire de belles colonnades, bah oui, il n'y en avait pas assez, le long des ailes des ministres et une colonnade transversale qui se lierait avec les deux autres. Cet ensemble présenterait du côté de Paris une cour environnée d'un péristyle qui pourrait avoir un caractère de grandeur. Bon, faut pas se voiler la face, la réunion se solde par une nouvelle visite sans pour autant donner la préférence à un projet. L'empereur demande à ce que toutes ces questions soient examinées par un conseil. Jusqu'à présent, il avait confié le projet à Gondouin, à Fontaine, à Dufour. Chacun de leur côté, il n'arrive à rien. Du coup, il a l'idée, c'est pas comme si son intendant des bâtiments lui avait soufflé dès 1804, il a l'idée de tous les réunir dans un conseil, Gondouin, Fontaine et Dufour, sous la présidence de Costaz, pour essayer de réfléchir au projet versaillais. Ce conseil ne tarde pas à être organisé puisqu'il est réuni le 14 juillet à 1h de l'après-midi, non pas dans la cour, il devait faire chaud, mais dans l'ancienne chambre de Louis XIV. Et Fontaine note dans son journal, à ce moment-là, la préférence que Napoléon semble avoir, incessamment rappelée pendant tout le conseil, on l'imagine très bien l'empereur taper du poing sur la table, où il écrit « Sa Majesté ne veut pas se déterminer à faire ici un ouvrage de raison, elle veut de la magnificence, de la grandeur, effacer enfin ce qui a été exécuté sur Louis XIV. » Pardon ? Effacer enfin ce qui a été exécuté sous Louis XIV. Il y a deux secondes, il fallait vivre avec l'héritage de Louis XIV et même de Louis XIII, maintenant on rase tout. La façade du projet de M. Hortier, rappelez-vous toutes les colonnes, hein, qui offre une grande ligne de colonnes, dont la hauteur comprend celle de tout l'édifice, lui paraît préférable à celle qui offre des subdivisions d'étages. Et il termine, rien d'arrêté sur le sort de Versailles, on passe à l'examen d'autres projets. Suivant ces nouvelles indications, on arrive bientôt à la fin, Alexandre Dufour propose un nouveau projet. Le 4 janvier 1812. De façon générale, l'architecte supprime les deux ailes des ministres, on n'a plus rien, et crée un pendant au grand commun, de l'autre côté, au niveau du château d'eau. Le pendant de l'aile Gabriel du côté sud, et qui contient un petit peu plus au sud la salle de spectacle, et au nord, bénéficient toutes les deux d'un traitement architectural bien particulier. On voit bien comment du gros œuvre vient se rajouter. C'est Napoléon qui avait parlé de façade postiche. Bon ben, voilà, Dufour ne fait que respecter, en mettant ses maçonneries, ferme légèrement les cours pour descendre dans les rues de la surintendance et des réservoirs. Le corps central et ses deux ailes en retour héritent d'une distribution déjà adoptée par Fontaine. Ben oui, parce que là c'est Dufour. Dufour s'est fait taper sur les doigts sur ses idées trop innovantes sur l'agencement des pièces pour Napoléon. Du coup, il prend même pas la peine de renoter les légendes. Il considère que c'est comme Fontaine. Voilà, merci, bonsoir. Ah, on rase tout, on rase les deux aides des ministres, il n'y a plus rien, on agrandit l'avant-cour. Et c'est là que le projet est intéressant, parce qu'on a conservé les élévations. Deux élévations conservées au château de Versailles peuvent être associées à ces projets de Dufour. La première, celle-ci, présente un château sommet d'une coupole. Ça, voilà. Complètement, cette idée de grandeur, ce point focal au bout de l'avenue de Paris. Deux projets de traitement architectural sont envisagés, ils ne sont pas tout à fait identiques de part et d'autre de la cour. Et les trois arcades de communication de chaque côté donnent accès directement aux cours, puis au jardin, d'où sortent des personnages, hein, c'est très joli, hein, comme vue, comme élévation, d'où sortent des personnages, et c'est un dispositif qui n'est pas sans rappeler ce que Paris avait proposé exactement en 81, où on voit bien de nouveau des carrosses, c'est beaucoup plus richement dessiné puisque Paris fait intervenir du rameau pour dessiner toutes ces parties vivantes qui donnent accès directement au cours puis au jardin. On conserve l'idée d'une grille royale ici, on a perdu ici et seulement remplacé par deux petites marches. La seconde présente un château depuis l'extrémité orientale de la place d'Armes. On est grosso modo à l'entrée de l'avenue de Paris et voire sous la statue équestre de Louis XIV. Ce projet propose une plus grande uniformité puisqu'une même façade, alors allons-y, court depuis l'extrémité du grand commun, se replie sur le côté, vient se joindre directement à l'aile du midi, la façade plaquée que je vous montrais en rouge juste avant vient se replier dans la cour, revient sur l'aile du nord, se plaque de nouveau sur l'immense, ce que j'appellerais le grand commun bis, au niveau du château d'eau, avec deux grandes rampes de chaque côté pour racheter les différences de niveau, parce que bon, Louis XIV avait fait déménager des quantités considérables de terre, il ne s'agit pas non plus de tout recommencer.
Donc,
ils suppriment
l'indépendance américaine.
Il n'y a plus d'accès de la rue, oui, exactement.
Ah, d'accord.
Il n'y a aucun problème. Là, il faut imaginer les deux ailes des ministres actuelles. Ils rasent tout pour faire une immense place, une immense cour, tout de même fermée par une grille. On perd cette idée d'hémicycle et on fait quelque chose de très droit. Et puis, bon, deux, trois colonnes pour plaire à Napoléon. L'empereur souhaitait voir disparaître le grand commun afin de disposer d'une grande façade. Puisque au moment où Fontaine fait le compte-rendu de la réunion, où Dufour propose son premier projet, il indique « L'empereur y voit une disposition qui répond aux idées de grandeur qu'il s'est formée sur la résidence de Versailles. » Bon, un bon point pour Dufour, il peut souffler. Son plan correspond à ce que Napoléon souhaitait. Mais il veut même aller au-delà de ce qu'on propose et détruire le grand commun dont on n'a pas besoin, dit-il, pour laisser voir, en arrivant de Paris, toute l'étendue de cette façade. Dufour retouche son programme. Alors là aussi, vous êtes assis. Le second projet du jour. Alors elle présente. Il présente. Ah bah complètement. Il présente un décor analogue à ce qu'il avait fait. Il refond pas non plus tout ce qu'il avait prévu, puisque Napoléon avait dit OK. Et il enlève le grand commun, et c'est là qu'on voit réapparaître des rampes pour descendre dans les rues de la surintendance et dans la rue des réservoirs. Et du coup, on a une vue complète de l'extrémité de l'aile du Midi jusqu'à l'aile du Nord. Mais quelle était l'ambition de Napoléon ? Il voulait rivaliser avec la façade sur les jardins. Et on conserve effectivement une sorte de rythme. Ici, le pavillon reçoit la même ordonnance que les anciens pavillons du fond de la cour royale. Est-ce qu'on peut encore se repérer ? J'ose même plus parler de ce qui existe aujourd'hui parce qu'on n'arrive plus à se repérer. Et on conserve encore ce dôme, beaucoup plus saillant cette fois-ci qu'ici, avec, voilà, on ne sait même plus où est la porte d'entrée. C'est très compliqué pour se repérer pour le coup, là, dans cette utopie de Dufour. Bon, je terminerai en disant que les nombreux projets resteront, vous le savez, sans réalisation. Car Napoléon souhaite se consacrer à partir de 1812 à la construction d'un palais spécifique pour le roi de Rome sur la colline de Chaillot à Paris. Oh bah c'est beaucoup plus facile, on part de zéro. Allons-y. Pendant toute la période, c'est là qu'il faut nuancer quand même les délires de Dufour, Napoléon et Fontaine. Pendant toute la période, on ne laisse pas tomber en ruine le château, qui bénéficie de plusieurs campagnes essentielles de restauration. Et si les successeurs de Napoléon ont pu, je dirais, aussi bien sauver Versailles, c'est parce que quand même, il avait dépensé. Alors peut-être pas les 6 millions qu'il avait probablement planqués sous son matelas, mais voilà, il a réussi, il a quand même restauré une partie du château. La reconstruction du palais revenait sans cesse aux lèvres de l'empereur, on l'a bien vu avec le journal de Fontaine, qui dresse un bilan du règne de Napoléon et surtout de sa politique vis-à-vis de Versailles. Je vous cite le passage. L'empereur, fatigué des nombreux obstacles qui se dressaient sur chaque point, c'est pas de sa faute, hein, découragé par le mauvais succès de ses premiers efforts, comme s'il avait tout fait, c'est un architecte incompris, Napoléon, finalement, effrayé du montant des dépenses, ah bah oui, quand même, parce que bon, ça dépassait les 6 millions, regretta, en le maudissant, que Louis XVI, il s'était pas encore attaqué à Louis XVI, que Louis XVI, dans cet amas d'incohérences, lui eût laissé son faste à utiliser et la Révolution ses excès à réparer. Tous ces projets, je vous l'ai dit, restent sur le papier, aucun ne voit le jour. Et je terminerai, parce qu'il en reste un, il reste un projet dont on n'a ni plan, ni élévation. La seule idée, c'est ce qu'en écrit Las Casas dans son mémorial de Sainte-Hélène, qui rapporte les paroles de Napoléon. Et là aussi, je vous le cite pour terminer, parce que c'est assez impressionnant. « Je condamnais Versailles dans sa création, reprenait l'empereur. Mais dans mes idées gigantesques sur Paris, je rêvais d'en tirer parti et de n'en faire avec le temps qu'une espèce de faubourg, un site voisin, un point de vue. Et pour l'approprier davantage à la capitale, j'avais conçu une singulière idée, on va pas le contrarier là-dessus, singulière idée, dont je m'étais même fait présenter le programme. De ces beaux bosquets, je chassais toutes ces nymphes de mauvais goût, ces ornements à la turcarée, et je les remplaçais par des panoramas en maçonnerie de toutes les capitales où nous étions entrés victorieux, de toutes les célèbres batailles qui avaient illustré nos armes. C'eût été autant de monuments éternels de nos triomphes et de notre gloire nationale, posés à la porte de la capitale de l'Europe, laquelle ne pouvait manquer d'être visitée par force du reste de l'univers. » Mais justement, Versailles eut la chance de ne pas subir, ce sont mes mots de conclusion, les dernières pensées de cet empereur que l'historiographie a, je pense, que ce soir on peut le dire, avec raison, qualifié de mégalomane. L'Empire tombait et la monarchie allait reprendre ses quartiers au Palais des Rois. L'avenir du château était encore sombre jusqu'à ce que Louis XVIII et Charles X arrivent. C'est à ce moment-là. Et jusqu'à ce que Louis-Philippe le dédie à la nation tout en consacrant, c'est quand même le petit point positif, tout en consacrant un grand nombre de salles à l'empereur, à sa famille et à son histoire, qui demeure un des seuls témoignages du passage de Napoléon à Versailles, et je pense qu'on peut s'en réjouir. Je vous remercie.
Merci beaucoup Maxime pour votre présentation de ces projets fascinants, mais qui font frémir. Voilà, c'est ça. Avez-vous des questions pour l'intervenant de ce soir?
On a une vague idée de ce qu'aurait coûté l'exécution d'un des deux derniers délires.
Des deux derniers, je pense que Dufour ne s'est même pas posé la question. Parce qu'on arrive à une période où il suffisait de griffonner quelque chose sur un post-it, le soumettre à l'empereur, et ça lui convenait. Il était en dehors de toute réalité. Il fallait que ça je peux les remettre parce que c'est pas... Voilà. Il suffisait de présenter ça à l'empereur. Mais je pense que Napoléon lui-même avait bien compris que voilà, il payait encore des architectes, il essayait de sauver quelque chose, mais c'était hors de question de le deviser. Quand Gondouin parle de 25 millions pour son premier projet, on peut multiplier par 10, 20. Là, c'est... À moins d'apprendre que Dufour voulait que ce soit un pastiche. Alors je ne vais pas dire un château en carton-pâte, mais avec des matériaux voilà, un peu moins chers. Alors est-ce que c'est que de la pierre blanche de taille? Je pense que Dufour n'imagine même pas combien ça peut coûter. Il fait ça parce que Napoléon, ça lui plaît. Déjà, il est à son service, puis ça lui plaît. Alors qu'il avait énormément de travail. On est entre 1811 et 1813. Alexandre Dufour est quasiment sous l'eau parce qu'il est en charge de la restauration du château. Il avait d'autres choses à faire que faire ces petites élévations aquarellées qui ressemblent plus à des utopies, des caprices, ce qu'on a appelé sous Louis XVI des caprices d'architecture et des folies architecturales que voilà. C'est plus destiné à orner son bureau, voir le bureau de l'empereur. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elles sont présentées dans l'exposition, avec un beau cadre doré. Et je pense que ça ne peut pas aller plus loin. Mon sens. J'espère. J'espère que Dufour ne s'est même pas posé la question. Non, mais puis, il faut imaginer le temps pour réaliser ça. Parce que bon, finalement, on est en 1814. Napoléon, il n'a plus beaucoup de jours devant lui, là. Hein. Ça se gâte.
Hein. Oui, il aurait commencé le truc, il n'aurait même pas vu la fin.
Est-ce que seulement ça pouvait me plaire? Parce que c'est hideux.
Oui, c'est hideux, mais c'était la demande de l'empereur. C'était la demande de l'empereur. Aujourd'hui. Mais complètement.
C'est un projet de Chaillot ressemble à ça aussi.
Ah, mais complètement, oui. Mais c'est ce classicisme poussé à son maximum. C'est, voilà, c'est en dehors de toute réalité.
C'est sans grâce.
Voilà, c'est sans grâce. Je pense que Napoléon n'avait qu'un seul mot à la bouche, c'est colonne.
Ouais.
Colonne.
Et
arc de triomphe. Oui. Non, mais c'est assez impressionnant comment... voilà, je pense qu'il a perdu toute notion de la réalité vers la fin. Il devait être sur autre chose et... Heureusement qu'il a abandonné Versailles et qu'il s'est consacré à Chaillot, parce que voilà, quand on regarde ça, voilà, on manque de s'évanouir.
Mais à l'époque, il n'y avait pas de. Par exemple, aujourd'hui, on parle de reconstruire Notre-Dame. Mais il y a justement toutes ces histoires. Et il y en a qui disent qu'il faut construire, il faut laisser comme à l'époque, parce que c'est le truc. Et là, il y en a une autre qui dit, il y en a qui disent non, il faut faire un truc magnifique, une verrière en verre et tout ça. À l'époque, il n'y avait pas justement comme ça des gens qui s'affrontaient. Parce qu'il n'y a personne qui a dit. Enfin, je ne sais pas, c'est.
Aller à l'encontre de Napoléon Ier, moi je veux bien, mais vous irez toute seule, hein, parce que même s'il n'était pas très grand, on l'imagine très bien tenir réunion dans la grande galerie, dans la grande galerie de Trianon, ou même dans la chambre de Louis XIV. Je suis désolé, mais il tient réunion dans la chambre de Louis XIV, comme s'il avait ce panorama devant lui, et puis il avance ses petits chevaux. On voit bien comment voilà, il se fait représenter, on l'imagine très bien griffonné sur un plan. Personne ne peut s'élever contre la volonté, et puis je pense que personne n'y croit.
C'est vrai que ça, c'est un.
personne n'y pense.
Parce que ça, c'est pas juste.
Ils sont forcés, voilà.
C'est pas juste un bâtiment, c'est un patrimoine entier qui disparaît.
Ah oui, mais ils s'en moquent. C'est à lui. C'est à lui. Ça rentre dans le giron de la maison impériale. Aujourd'hui, on est écrasé par la notion de patrimoine. Mais Napoléon, c'était sa demeure. Et c'est bien ce que je vous ai montré. Un coup, Louis XIII, on garde. Un coup, on vire. Louis XIV, on garde. Oh non, finalement, ça me plaît plus. Oh, il m'énerve. Oh non, on reprend. Voilà. Tous les mois, il changeait d'avis et voilà, il n'avait aucune, même s'il était rattaché aux maisons royales, etc., grâce à Marie-Louise. Bon, je crois qu'il s'en moque complètement. Et puis, c'est chez lui. Il a eu Versailles clé en main. S'il veut abattre les cloisons, il refait la peinture. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'état des lieux de sortie. Surtout que vu comment il quitte Versailles, c'est bon, hein.
Vous le voyez très mégalomane et très prêt à tout modifier alors que rien n'a été fait. Mais finalement, il était quand même très respectueux des autres demeures royales. Il n'a pas modifié Fontainebleau alors qu'il y a vécu. Il n'a pas modifié Trianon alors qu'il y a vécu. Il n'a pas beaucoup modifié Tuileries, sauf erreur. Donc il était finalement, peut-être un peu mégalomane dans ses projets, mais il était assez respectueux de ce qu'il a eu.
Ah ben, pour tout le reste, il n'y a aucun problème et je ne lui retire absolument rien. Mais Versailles, et on le voit en lisant les écrits de Daru, de Fontaine, très rapidement la correspondance de Gondouin, il s'est acharné sur Versailles. Et Versailles château, j'entends. C'est... Alors soit, comme Louis XIV, il a vu tout le potentiel de la surface, du terrain, le symbole. Héritage, on rase tout, on recommence. À aucun moment, il a réellement envisagé de tout raser. Il n'était pas fou non plus. Il voulait rentrer dans cet héritage en gardant certaines pièces, mais tant qu'à faire, faudrait pas qu'on les voie de l'extérieur. Vous voyez, c'est ce côté, on garde le 14, mais il faudrait faire mieux. Et Fontaine, d'ailleurs, sur la fin de sa vie, était dans cette optique. On garde ce que mes prédécesseurs ont fait, parce que bon, quand même, déjà, ça tient toujours, donc c'est pas mal. Mais il faut faire mieux, il faut faire plus clinquant. Et là, même si c'est monotone, même si c'est moche, même si, voilà, on en est aujourd'hui, même, je dirais, mal placé pour porter un jugement sur les projets du four, mais si ça plaisait à l'empereur, c'est chez lui. Il n'y a aucun problème. C'est ça, en fait, le...
Il n'y a pas de discussion.
Il n'y a pas de discussion et puis je pense qu'il n'envisageait même pas de porter à exécution. Là, en 1806-1807, je crois que ça a dégénéré sur le plan architectural. La machine était lancée, il n'a pas trop su comment arrêter la chose. Et puis, alors il faudrait savoir, est-ce que les architectes étaient heureux de faire ça? J'en sais rien. C'était intéressant pour eux de produire des choses irréalistes. Ou alors au contraire, l'empereur, bon, voilà, on griffonne encore un truc. Voilà. On sait par le ton que Gondouin utilise dans sa correspondance qu'il était heureux, dévoué. Il prenait un plaisir considérable à rédiger ces 52 volumes de chiffres. Non mais c'est ce qui est impressionnant. Dufour, on ne sait pas trop, il n'a pas tellement laissé d'écrit, seulement la correspondance administrative. Fontaine, il se lâche un peu plus dans son journal, mais il a toujours été entre deux lieux. Fontaine avait cette multiple casquette sur les demeures royales, et d'ailleurs elle est beaucoup plus travaillée aux Tuileries ou à Saint-Germain, et beaucoup moins à Versailles. Alors est-ce qu'il chapeautait, est-ce que voilà, il voulait quand même s'intégrer à la compétition, mais voilà, je pense que Versailles, aucun pensait.
Versailles n'a pas du tout travaillé.
Alors on pourrait penser qu'il a donné des éléments écrit à Fontaine, ils ont échangé sur Versailles, ça se ressent dans leurs écrits, mais lui-même seul n'a rien produit. Voilà. Par leur relation, Fontaine et Percy, oui, ont communiqué sur Versailles, et d'ailleurs, il faudrait dédier une conférence particulière à ces projets-là, mais on pourrait sentir la patte de Percy dans certains traits des plans de Fontaine. Il y a quelques gestes architecturaux qui sont assez typiques de Percy. tout le monde était lié à l'empereur sur toute la période, et voilà, on faisait ça. Et c'est même plus facile de faire ça que de faire des projets réalistes pour les autres demeures impériales. Parce que là, c'est exécuté.
Mais sur les plans que vous avez montrés de 1806-1807, ce qui est bizarre, c'est qu'on parle déjà de l'emportement de l'impératrice qui est la question de mariage en 1807.
Oui, alors, attention, tous les plans, tous ces plans-là, c'est ce que je vous disais, sont des copies réalisées par Dufour à partir des originaux. C'est-à-dire qu'il a pu adapter la légende au moment où il les a réalisés. Ce qui explique les différences entre... Et d'ailleurs, Dufour copie, je vous le disais, les plans Ancien Régime, et sur les plans de Heurtier et de... alors je ne sais plus jamais si c'est Père le Jeune ou Père le Fils, il a dû s'endormir sur sa veuille parce qu'on a des différences de... Voilà, ce n'est pas une copie absolument fidèle entre ce que Besançon conserve, le plan que l'on sait qui a été présenté au roi, est-ce que Dufour recopie ? Voilà, est-ce que son fond de plan ne correspondait pas tout à fait ? Voilà, c'est assez difficile. Est-ce qu'il n'a pas eu accès à 100% à ses plans ? Normalement, oui, puisqu'ils étaient dans le portefeuille qui se transmet d'architecte en architecte. Et d'ailleurs, le portefeuille, à l'exception des planches Gondouin, s'est transmis d'architecte en architecte, en responsable d'architecture, du service d'architecture, en responsable du service d'architecture, jusqu'à la fin du 19e siècle. Mm-hmm. Il a ensuite été délapidé et ensuite parti aux archives. Et c'est pour ça que l'agence, enfin le service des archives de l'EPV en garde une grande partie, parce que voilà, c'est resté dans les cartons, mm-hmm. quelque part.
Mais à aucun moment il n'est question de construire un palais impérial neuf.
Pas que je sache. Pas que je sache, il aurait fallu... Alors, un palais impérial, non, mais est-ce que Chaillot n'aurait pas répondu à cette, voilà, à cette ambition ?
Il y avait la place.
Voilà, parce qu'il fallait, il fallait trouver... Napoléon était centralisé à Paris, hein, c'est ce qu'il dit à la fin, il en fait la capitale de l'Europe, bon, très bien, mais dans Paris, vous trouvez une surface assez grande pour faire un palais pour satisfaire son ambition architecturale. Mais non, même dans l'approche couronne, pas grand-chose. C'est déjà assez densifié. Et Chaillot répondait. Alors, et d'ailleurs, Napoléon donne, il y a toute une correspondance là-dessus, il donne son avis sur la surface et la superficie de Chaillot et estime justement que oh, c'est pas gigantesque. Il y a du potentiel, mais c'est pour ça qu'on va le réserver pour le roi de Rome. Parce que bah, lui, il a toutes les demeures impériales, et puis bon, ça lui suffit.
Il y a des traces, il y a quelques projets plus concrets pour Chaillot
Pour Chaillot, oui, on a toute la correspondance. Et est-ce qu'on a encore les devis ? Je ne sais plus.
Mais
on a les plans. Oui, on a les plans et les. Oui. On a les plans, les élévations. Je crois qu'il y a deux ou trois coupes, et puis effectivement, il y a eu un début de réalisation.
Et ça couvrait quelle partie ? Parce que la colline de Chaillot,
c'est une très très bonne question. Je ne sais même pas s'il existe une publication sur ce moment-là. Je ne suis même pas sûr. Mais il faudrait fouiller, parce que le Fontaine était sur place, donc il faudrait fouiller cette partie dans son journal, et je suis sûr que ça doit receler de plein d'anecdotes. Les plans sont de mémoire en plus grande partie aux Archives nationales. Il y a une coupe en collection privée. Il faudrait fouiller, mais je suis sûr qu'il y a des choses très intéressantes. Ah bah, là, la surface, vous pouvez s'étendre, justement.
Il y a eu d'autres projets pour Chaillot. À la fin du 19e, au retour des chambres, il était prévu de construire un palais pour les deux assemblées.
Bah, de tout temps, c'est resté un îlot, une superficie assez modulable. Et jusqu'à, finalement, assez récemment, qui pouvait recevoir et satisfaire un potentiel d'un chef d'État, d'institution, etc. Et c'est pour ça que Napoléon porte son dévolu sur la colline de Chaillot pour le roi de Rome. Mm-hmm. Et puis après, bon, bah, l'histoire le rattrape, et puis bon, bah, ça sent plus trop bon, et il faut quitter. Mais tout allait être... je pense que les finances étaient déjà prévues, Duroc avait dû déjà prévoir les finances pour le palais de Chaillot, puis voilà, il suffisait de se lancer. Et c'est pour ça que sur la fin, Versailles s'essouffle. On n'a plus rien. C'est plus... Déjà, il n'y a plus les finances. Et puis, parce que bon, les 6 millions, hein, on ne va pas revenir là-dessus, mais les 6 millions, oui, il n'y en a plus. Donc, tout est concentré. D'ailleurs, les architectes se transposent. Alors, Dufour n'interviendra pas sur Chaillot, mais tous les architectes se transposent pour le palais du roi de Rome. Et ils travaillent d'arrache-pied pour ça. Et sinon, à l'entretien de toutes les demeures impériales. Toutes les demeures ont été entretenues comme Versailles. Il n'a rien laissé. Parce que, voilà, on a pu être un peu dur ce soir sur Napoléon et le patrimoine, mais il entretenait son patrimoine immobilier. Hein. Il n'a rien laissé tomber, rien n'est tombé en ruine. Alors, tout n'est pas toujours très heureux, mais il a essayé de conserver... Compiègne était dans le giron, hein, complètement. Oui, oui, oui. Il était dans la liste des immobilières de l'empereur. Et tout ça a été géré par la Commission Générale des Bâtiments de la Maison Impériale. Mais comme c'était sous l'Ancien Régime, hein. Là-dessus, les institutions n'ont pas changé. Hein. Il n'y avait absolument aucun problème.
Alors notez bien le 25 septembre, parce que nous programmons la suite. Donc ça sera les travaux sous la restauration. Et nous retrouverons avec grand plaisir Maxime voilà, pour la suite de cette redécouverte du Versailles.
Ça arrive, les photos sont lourdes. Hop, hop. Voilà.
Oui, qu'est-ce que c'est que le lanternon qui a sur la
gauche? Ah, ça existait, il y avait deux lanternons sur chaque aile.
Ah, qui est abattu par la camion.
Qui recevait. Alors, il y avait un carillon qui sonnait les heures de manière différenciée avec la chapelle. Et deux cadrans tournés vers la ville, et c'était vraiment pour indiquer l'heure à la foule, à la ville, etc. Ah non, il y a vraiment deux lanternons sur... Bon, là, on a l'aile Gabriel, mais il faudrait regarder ce que Sylvestre a dessiné, etc. Ah, il y avait deux lanternons.
Et ces constructions devant Gabriel, qu'est-ce que c'est ?
Alors, vous avez... Puisqu'on est à un moment où, du coup, puisqu'il y a Gabriel, le grand projet est lancé, et voilà, exactement. Au moment où Gabriel lance son grand projet, et ça c'est extrêmement bien documenté, je ne vais pas faire ma promotion, mais vous avez tout dans le livre qui est disponible à la sortie, et notamment la reproduction d'un document méconnu sur le moment où Gabriel fait déposer l'hémicycle nord de la grille royale. Ce que vous avez ici, c'est qu'il n'y a plus de grille royale entre le socle de la statue. Il enlève un morceau du pavillon de garde, donc là, il n'y a plus du tout de grille. Ce sont des palissades en bois dont Gabriel signe le devis qui est encore aux archives nationales. Et il fait construire en moellon et plâtre deux guérites pour faire office de corps de garde pour les Suisses et les gardes de la porte. Et si vous me permettez, je fais ma seconde promotion. Je suis l'auteur de la toute première et unique monographie sur la Compagnie des gardes de la Porte du Roi, qui est disponible aussi à la sortie. Fermons la parenthèse. Et surtout, le clocher, avec également l'internon, pour tout ce qui est carillon et cloche, et le même cadran qui devait être reporté ici chez Gabriel, et puis ensuite Révolution arrive, les frères Rousseau sont rémunérés pour faire la sculpture du tympan. Et ce qui est intéressant, on parlait des fouilles de la grille royale tout à l'heure, les fondations de ces pavillons en moellon ont été retrouvées au moment des fouilles et de la reconstruction du bahut de l'actuelle grille royale. Tout est documenté, vous avez tout sur les photos, c'est assez intéressant. Ah, c'est une brèche incroyable, mais vous aviez les palissades en bois quand même. Ils ne sont pas rentrés par là parce qu'il y avait quand même la palissade. Il y avait la palissade, la grille royale était fermée et ils ont préféré passer par cet espace. On le sait pas souvent puisque les vues ne le représentent pas correctement. On sait qu'en plan, il y a un passage entre le mur bahut, la colonnade et le mur du fond. Un passage non pas étroit, mais assez large, puisqu'un carrosse pouvait passer. Et c'est par là que se sont engouffrés les émeutiers et ensuite ont gagné la cour royale et tout ce qui s'ensuit. Je vous renvoie au dernier jour de Versailles, Alexandre Aral, qui en parle merveilleusement bien, et ensuite, est-ce qu'il y a de la reine, tatati, tatata. Enfin, là, voilà, on a la... C'est pour ça que j'ai choisi cette estampe pour illustrer l'état à l'arrivée de Napoléon, parce que, à part le monde, quelques dégradations, notamment au groupe sculpté de pavés, etc., il le retrouve dans cet état-là. Et les cabanes en moellon, Napoléon les a connus. Puisque c'est seulement après qu'on décide. Voilà.
Le château, lui, n'a pas subi.
Et après, pas d'entretien.
Après, pas d'entretien. Enfin, disons qu'il est entretenu à l'économie.
Oui.
Du personnel est encore. Voilà, c'est ça. Le personnel est encore sur place. Bon, bah, on imagine très bien qu'on fait ce qu'on peut. Il n'y a plus personne pour payer. Donc on fait ce qu'on peut, on a la conscience, parce que c'est le personnel royal, mais quand vous avez travaillé toute votre vie à Versailles, vous avez cette conscience professionnelle, vous vous sentez chez vous à Versailles, et donc même si vous n'êtes pas payé, ces gens sont sans solde, hein. Même s'ils ne sont pas payés, même s'ils n'ont pas d'argent, il faut penser que la plus grande ressource de Versailles, pendant tout l'Ancien Régime, ce sont les matériaux qui sont dans les magasins du roi. Donc vous aviez tout un vivier de matériaux, sur place pour pouvoir réparer, découper et faire tout ce qu'il y avait à faire. Donc il ne manquait plus que les hommes et les hommes étaient sur place. Donc pour entretenir à l'économie, il n'y avait absolument aucun problème. Et pour ne pas vous dévoiler la suite, bon bah voilà, vous le connaissez, ce pavillon-là est démoli et puis donne ce que l'on sait. Mais je n'en parlerai pas plus pour vous inciter à venir. La date de démolition. Oui, je ne l'ai pas en tête, c'est en même temps que le reste de la grille royale.
D'accord.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Maxime.
Je vous en prie.
Beaucoup passionnant. Et donc, rendez-vous au mois de septembre pour la suite des aventures.